le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, d'abord cette interdiction du documentaire « L'homme qui répare les femmes » dédié au docteur Mukwege, la MONUSCO contre la mesure du gouvernement. C'est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression, affirme Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Ajoutez à cela les 409 violations de droits de l'homme enregistrées pour le seul mois d'août par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les détails à suivre tout à l'heure. Nous parlerons aussi du lancement de la campagne d'inscription à l'école primaire, une initiative du gouvernement avec l'appui d'UNICEF, initiative qui vise 2 millions d'enfants vivant encore en dehors de l'école en RDC. Des stratégies pour relever ces grands défis avec une experte de l'UNICEF qui sera notre invitée de tout à l'heure. Enfin, la MONUSCO et l'UNESCO déterminées à promouvoir l'alphabétisation en RDC, alors qu'environ 18 millions de Congolais et Congolaises ne savent ni lire ni écrire. Et la Journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre, a été célébrée à Kinshasa. Nous revenons sur cette journée dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Nous commençons par cette actualité. C'est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression. C'est en ces termes que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC a réagi à l'interdiction par le gouvernement congolais de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes » de Thierry Michel et Colette Brackman, consacré au travail du docteur Denis Mukwege en faveur des femmes victimes de viol. Un cas de violation de droits de l'homme parmi tant d'autres, documentés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au cours du mois d'août dernier. Jean-Pierre Elali Coco nous en dit plus.
Oui Nadine, la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes » prévu les 8 et le 9 septembre dernier à l'Institut français n'a finalement pas eu lieu dans la capitale. Tout simplement parce que le gouvernement l'a interdite. Kinshasa trouve que ce documentaire consacré au travail du docteur Mukwege en faveur des femmes victimes de viol salit l'image de l'armée. Il y a une volonté manifeste de nuire, de salir l'image de notre armée et aucun pays au monde ne peut le tolérer, a justifié le mercredi 2 septembre dernier le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Mende Omalanga parle des calomnies contre l'armée. Nous connaissons des soldats qui sont morts dans les combats. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils soient accusés de viol, a-t-il ajouté. En réaction, la MONUSCO s'insurge contre la décision du gouvernement qu'elle qualifie d'atteinte inadmissible à la liberté d'expression, une liberté garantie par la Constitution congolaise et les lois internationales. Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO.
Suite à l'interdiction du film « L'homme qui répare les femmes » de Thierry Michel et de Colette Brackman sur la vie et l'œuvre de Dr Denis Mukwege, qui prend en charge les femmes violées à l'hôpital Panzi de Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, indique que cela est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression, une liberté garantie par la Constitution congolaise et les lois internationales. Monsieur Kobler demande donc instamment aux autorités congolaises de revenir sur leur décision et donc de laisser les cinéphiles juger par eux-mêmes de la pertinence et des arguments développés dans ce film pour se faire une idée du drame vécu par des milliers de femmes congolaises violées dans la région. Et Martin Kobler d'affirmer que, de la même façon que nous dénonçons ces viols de ces femmes, de la même façon donc nous nous élevons contre toute tentative de censure qui pourrait empêcher l'effort de sensibilisation de la population contre les viols et autres formes de violence faites aux femmes.
Par ailleurs, cette violation n'est qu'une partie de l'iceberg qui cache tant d'autres, documentée en août dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon son directeur, le bureau a enregistré 409 violations de droits de l'homme en RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois de juillet 2015. José Maria Ranaz l'a dit mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés. Ça confirme une tendance à l'hausse des violations des droits de l'homme. C'est le deuxième mois consécutif que les chiffres des violations des droits de l'homme augmentaient. Et ça, c'est une question préoccupante. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud-Kivu.
Selon ce rapport, les victimes de ces violations sont des journalistes et des membres de la société civile. Certaines de ces violations porteraient atteinte à la crédibilité du processus électoral, toujours d'après ces documents.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Fêtée le 18 août de chaque année, la Journée internationale de l'aide humanitaire a été célébrée le mardi 1er septembre dernier à Kindu, dans la province du Maniema. À cette occasion, une caravane motorisée a sillonné la ville. Otia Maniema a fait aussi l'état des lieux de la situation humanitaire de la province. Il ressort que le Maniema enregistre plus de 120 000 personnes déplacées et 11 000 retournées ces derniers 18 mois. Monsieur Idrissa Kocho, chef du bureau Otia Maniema, parle des stratégies de prise en charge de ces personnes et d'autres sujets tels que la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans cette région. Il s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Idrissa Konté. Je suis le chef de sous-bureau de Otia pour la province de Maniema.
Est-ce que nous pouvons connaître de pourquoi et c'est quelle sorte de manifestation?
C'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc nous, on n'a pas organisé ça le jour prévu, c'est-à-dire le 19 août. C'est aujourd'hui que nous avons eu les moyens et la possibilité de l'organiser. Mais normalement, cette journée est organisée le 19 août de chaque année.
Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux d'abord sur les humanitaires et sur les actions humanitaires?
Nous avons un problème de capacité en termes de présence humanitaire ici. Nous avons 4 agences du système des Nations Unies et nous avons 2 ONG internationales et quelques ONG locales. Donc c'est un problème de capacité qui s'oppose ici pour intervenir en faveur de nos populations bénéficiaires. Donc il s'agit de plus de 120 000 personnes déplacées en provenance du Sud Kivu qui sont ici et il y a plus de 110 000 personnes retournées pour les 18 derniers mois, mais il n'y a pas de capacité ici au Maniema pour intervenir. Les quelques interventions qui ont été faites, c'était par des ONG qui sont venues du Sud Kivu et qui ont mené des actions dans le territoire de Kabambare. Et, mais il se pose beaucoup de problèmes. Nous, à notre niveau, en tant qu'Otia, nous venons de faire un plaidoyer fort pour le retour du PAM et de la FAO parce que c'est le Maniema qui a le taux le plus élevé en termes de malnutrition et en termes de sécurité alimentaire. Et donc, sans ces deux agences, l'aide humanitaire serait vraiment très médiocre.
Alors, quel est le message que vous avez donné devant toute cette population humanitaire qui s'est réunie dans cette salle?
Nous avons 2 catégories de bénéficiaires, c'est-à-dire des déplacés internes qui viennent notamment du Sud Kivu et aussi à les retourner. Mais le message du coordinateur humanitaire que j'ai lu félicitait le courage des populations d'accueil. Donc, il les a décrits comme les gens qui sont au front, en première ligne en termes d'intervention humanitaire. Parce que quand des gens se déplacent et viennent en masse, ce sont des communautés d'accueil qui apportent la première assistance. Nous, les humanitaires, plusieurs fois, on vient en deuxième position, ou parfois le gouvernement. Donc, nous félicitons beaucoup le courage de ces populations d'accueil et nous voudrions dire aussi à nos bénéficiaires, c'est-à-dire des déplacés et des populations retournées qui ne sont pas oubliées. Nous sommes avec eux. C'est pour cela que nous venons de mener un plaidoyer fort pour que les acteurs humanitaires reviennent ici. Nous avons même pensé à faire un plaidoyer pour le retour du PNUD, pour que le PNUD commence à faire les activités de relèvement précoce et aussi UNFPA, parce qu'il y a beaucoup de cas de violence sexuelle qui sont rapportés. Donc la violence sexuelle n'est pas seulement due au conflit armé, mais c'est une zone hors conflit, comme ça a été décrit. Mais il y a cette réalité et il faut que cette agence soit là pour la prise en charge des personnes qui ont connu les violences sexuelles.
Avec les plaidoyers que vous nous parlez, est-ce qu'il y a effectivement l'espoir que ces institutions-là vont encore retourner au Maniema?
Mais si, il y a de l'espoir. Nous avons déjà été informés que la FAO prévoit de revenir ici en soit décembre, soit début janvier, donc 2016. Et le PAM, le coordinateur de Otia, le chef de bureau, est en contact pour que le PAM revienne ici. On n'a pas encore la suite. Mais nous sommes en train de mobiliser des partenaires pour revenir au Maniema parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et c'est une zone en crise déjà. Mais l'arrivée massive de ces déplacés fragilise davantage la situation humanitaire. humanitaires de la province. C'est pour cela que nous croyons que la meilleure approche, c'est de mobiliser le retour de ces agences et d'autres organisations humanitaires.
Le message?
Notre message est que souvent, cette journée aussi, c'est pour que la population du Maniema puisse comprendre ce que nous faisons sur le terrain. Parfois, des gens voient les véhicules qui passent, on ne connaît pas, ils pensent que les acteurs humanitaires ne font rien, ils sont là. Ce sont des zones difficiles avec des problèmes d'accès et des problèmes de sécurité qui s'opposent, mais on brave tout ça pour aller chercher les bénéficiaires et leur apporter de l'aide. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Et si on ne fait rien, comme la situation qui s'oppose maintenant dans le territoire de Kabambare, les déplacés envahissent aussi les champs des populations d'accueil parce qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est pour cela que nous, nous sommes en train de lutter pour que le PAM revienne. Et donc, nous demandons un peu de patience parce que le plaidoyer est en cours. La population doit comprendre que nous sommes là pour aider. Si on ne fait rien, ces déplacés vont peser sur ces populations d'accueil et ça va fragiliser la situation humanitaire davantage.
Nous vous remercions.
Merci beaucoup, merci.
Quelques nouvelles en bref. Comment élever les insectes comestibles? Une trentaine de personnes ont suivi à Kinshasa pendant 4 jours cette semaine une formation des formateurs sur les techniques d'élevage d'insectes comestibles. Cela dans le cadre d'un projet pilote du gouvernement financé par la FAO sur la promotion de l'élevage des insectes comestibles et de l'entomophagie. Il reste que les 30 personnes formées formeront à leur tour 200 éleveurs professionnels afin de démarrer la matérialisation de ce projet à Kinshasa et dans la province du Bandundu. Lutte contre le sida, la 3e édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le sida s'est tenue du 8 au 10 septembre à Matadi dans la province du Congo central. Près de 200 délégués venus de Kinshasa et de province ont participé à ce forum dont le thème était « Élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, contribution des entreprises ». Outre le programme national multisectoriel de lutte contre les sida PNMLS, les FONAS bénéficient de l'appui de l'ONU SIDA, de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UFPA et du BIT. À l'ouverture de la rencontre de Matadi, le directeur pays intérimaire de l'ONU SIDA, Juvenal Kimiimana, a rassuré que l'élimination du VIH est possible. Enfin, pour les réfugiés et rentrées scolaires, 718 enfants de réfugiés burundais ont pu être inscrits dans les 5 écoles environnantes du site de Lucinda près d'Uvira au sud Kivu. Cela grâce à une campagne de sensibilisation supervisée par les ACR, faisant d'une pierre deux coups. Le ACR a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation sur le même site de Lucinda de 3 salles de classe avec l'appui de l'ONG AIRD, African Initiative for Relief and Development, et à la fourniture des 209 pupitres sur 359 et de 34 tableaux noirs dans les salles des classes.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF, a lancé le 17 août dernier la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Cette campagne vise 2 millions d'enfants congolais, selon une dernière enquête menée sur les enfants et adolescents vivant en dehors de l'école. Quel est l'objectif principal de cette campagne et quelle stratégie pour relever ces défis? Madame Irina Dia, chef de la section éducation à l'UNICEF RTC, revient sur le sujet dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Madame Irina Dia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section éducation à l'UNICEF. Le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF, a lancé le 17 août dernier la campagne d'inscription des enfants à l'école primaire. Que vise cette campagne?
Oui, l'objectif principal de cette campagne, qui est menée en proche collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a pour objectif principal est de sensibiliser les parents pour les amener à inscrire en première année du primaire tous leurs enfants de 6 à 7 ans.
Alors, il faut les maintenir à l'école aussi.
Oui, c'est important. Et c'est pour ça qu'on met vraiment le focus sur cette première année, parce qu'on sait qu'un enfant qui va à l'école à l'âge légal a plus de chances de mieux apprendre et de rester dans le système jusqu'à la fin du primaire. C'est pour ça que le focus est vraiment mis sur cette première année du primaire et sur cette tranche d'âge de 6 à 7 ans, parce qu'on sait que malheureusement, beaucoup d'enfants rentrent à l'école beaucoup trop tard et éventuellement sont amenés à abandonner parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'acquérir les fondamentaux d'apprentissage.
Cette campagne vise 2 millions d'enfants, madame, mais 2 millions d'enfants, les faire inscrire, les maintenir à l'école, c'est pas facile, c'est vraiment un défi pour non seulement le gouvernement, mais pour l'UNICEF aussi. Comment vous allez vous en sortir?
C'est effectivement un gros défi, pas seulement pour l'UNICEF et pour le gouvernement, mais aussi pour tous les partenaires qui sont impliqués dans ce secteur. Et c'est pour ça qu'ensemble, on appuie le gouvernement pour la mise en œuvre de son programme intérimaire de l'éducation, qui sera éventuellement remplacé par la stratégie sectorielle pour l'éducation et la formation en RDC. Alors, pour le maintien, ce qu'il faut dire, il y a différentes activités. Pour l'accès, déjà, c'est faire en sorte de réduire les frais de scolarité pris en charge par les parents. On sait que c'est un des éléments qui handicapent en fait la scolarisation des enfants. C'est un des goulots d'étranglement à la scolarisation des enfants. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener à réduire les frais directs.
Vous entamez cette campagne, vous l'avez déjà commencée. Est-ce que vous croyez qu'une simple campagne de sensibilisation suffit pour amener 2 millions d'enfants à l'école et les maintenir à l'école?
Non, c'est sûr que la simple sensibilisation n'est pas suffisante, parce que la sensibilisation va permettre d'expliquer aux parents, de leur démontrer l'importance de l'éducation. Mais une fois qu'ils amènent les enfants à l'école, c'est important de mettre en place aussi des mécanismes pour s'assurer qu'ils restent à l'école. Et parmi ces mécanismes, c'est faire en sorte qu'on appuie les parents pour la prise en charge éducative de leurs enfants. Et c'est un peu dans ce sens qu'on met en place des programmes de protection sociale pour donner des subventions aux familles les plus défavorisées. En termes d'offres éducatives, on dit aux parents, emmenez vos enfants à l'école, mais c'est important qu'ils puissent emmener leurs enfants dans un environnement sûr et sécurisé. Donc il faut aller parallèlement en accroissant l'offre éducative avec la construction, la réhabilitation de salles de classe en dur notamment. Voilà, toujours dans le cadre des efforts qui sont faits pour réduire la charge éducative qui revient aux parents, il y a avec le lancement de la campagne des kits scolaires qui sont distribués aux enfants de première année scolaire. Cette année, ces kits seront donnés à 1,4 million d'enfants, avec un accent sur les enfants les plus vulnérables.
Il y a une enquête qui a été publiée sur les enfants et adolescents qui sont en dehors de l'école. C'était en 2012, si je me trompe. Alors, on a remarqué dans cette enquête que près de 6 millions d'enfants vivent en milieu rural. Quelles sont les stratégies pour faire ramener tous ces enfants à l'école? Et je rappelle à nos auditeurs qu'il y a en République démocratique du Congo 7,3 millions d'enfants des 6 à 17 ans qui ne vont pas à l'école.
Effectivement, nous avons dans les milieux ruraux une grande population d'enfants en dehors de l'école. Et cela est dû à plusieurs facteurs. En zone rurale, la majorité des enfants vient de familles économiquement défavorisées. Et c'est dans ce sens que je l'ai mentionné plus tôt, avec l'appui de la Fondation Qatar notamment, que nous mettons en place un programme de subvention. L'objectif, c'est de faire en sorte de réduire les frais qui sont pris en charge par les parents. Parce qu'on sait qu'en moyenne, chaque parent décaisse 40 000 francs congolais pour la scolarisation de son enfant. Et dans une zone rurale, cela est énorme pour des familles qui ont à peine de quoi manger. Les subventions qui sont proposées, c'est de faire en sorte que les frais de scolarité soient subventionnés par l'État ou par ce programme, afin que les parents n'aient plus à décaisser ces fonds pour envoyer leurs enfants à l'école. Enfin, en zone rurale, le problème, c'est quoi? Les distances, elles sont énormes. Il n'y a pas d'école à proximité des villages et les parents sont réticents de laisser leurs enfants marcher sur de longues distances pour aller à l'école. Et dans ce milieu-là aussi, il est par conséquent important de procéder à la construction et à la réhabilitation de salles de classe, en dur notamment, afin que ces enfants qui vont en classe ne se retrouvent pas sous des paillotes.
Nous allons évoquer d'autres problèmes liés justement à cette campagne que vous menez. Il y a avant tout le problème de la gratuité de l'enseignement. Je parle des établissements publics. Mmh. Cette gratuité n'est pas encore effective à travers tous les pays. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est la prise en charge des enseignants par les parents, et des parents qui sont pauvres généralement. Et comment vous allez faire de sorte que tous ces problèmes soient réglés pour qu'enfin on puisse avoir le maximum des enfants à l'école?
D'abord, ce qu'il faudrait dire, c'est que la décision du gouvernement de mettre en œuvre la gratuité est une décision très courageuse qu'il faut déjà louer. C'est une réforme importante au vu du nombre d'enfants qu'il y a dans le système et au vu par conséquent du nombre d'enseignants qu'il faut prendre en charge. Par conséquent, je crois qu'il faut laisser aussi le temps au gouvernement de mettre en place les mesures d'accompagnement afin que, au bout d'un certain temps, on puisse voir des changements palpables. C'est vrai, pour les parents, on peut avoir l'impression que la réforme n'est pas effective, mais elle se met en place doucement et avec l'appui des partenaires du secteur, mettre en place des systèmes qui permettront au gouvernement de rendre cette réforme effective dans l'ensemble du territoire. Le paiement des enseignants reste une question importante. On sait qu'effectivement, les parents ont parfois subventionné, prendre en charge la rémunération de ces enseignants, mais on sait aussi que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour répertorier tous ces enseignements et progressivement les intégrer à la fonction publique et les prendre en charge.
Parlons encore d'une autre difficulté qui est liée aussi à la campagne que vous menez,
oui.
C'est plutôt les infrastructures scolaires.
Mmh.
Et je me souviens que le gouvernement a lancé le projet de construction de 1000 écoles dans toute la République démocratique du Congo.
Mmh.
Où en est-on avec ces projets, madame, qui bénéficieraient peut-être de l'appui de l'UNICEF?
Oui, il s'agit du PRIS, je pense, hein, du programme de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires.
Tout à fait.
Oui, c'est effectivement un projet que le gouvernement a lancé pour pouvoir répondre à ce défi de l'offre éducative, l'insuffisance de salles de classe en zone urbaine comme rurale. Et ce projet est entièrement financé par le gouvernement, mais il est mis en œuvre avec l'appui de l'UNICEF, à qui on a confié la construction de 22 écoles.
Une question qui peut sembler aussi être un obstacle, où à l'est du pays, notamment à Beni, dans les territoires de Beni, certaines écoles sont occupées par les retournés et même les déplacés internes. Est-ce qu'au niveau de l'UNICEF, il y a des stratégies qui sont arrêtées pour essayer de faire venir les enfants des déplacés et des enfants aussi, des familles d'accueil à l'école?
Les conflits ont toujours un impact négatif sur la scolarisation des enfants pour différentes raisons, parce que vous l'avez dit. Donc c'est important d'intervenir à différents niveaux. Pour ce qui est de l'occupation des salles de classe, l'éducation travaille avec la protection sociale pour faire en sorte que des mesures soient prises pour éviter que ces groupes armés ou ces militaires s'installent dans les écoles afin que ces dernières soient utilisées pour l'éducation des enfants, ce pourquoi elles ont été initialement construites.
Madame, ça on le sait, mais que fait exactement l'UNICEF pour essayer de faire inscrire ces enfants des déplacés? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'UNICEF a fait concrètement pour que cette campagne soit une réussite aussi dans ces territoires de Beni?
Oui, il y a différentes activités qui sont menées, c'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à des camps de réfugiés, c'est faire en sorte qu'il y ait des camps de population déplacée, c'est faire en sorte qu'il y ait des structures qui soient développées, construites au sein de ces centres, afin que les enfants qui sont dans cette zone puissent aller à l'école. Pour les zones où il existe déjà des écoles, en général, c'est pas toutes les écoles qui sont occupées, c'est faire en sorte qu'on accepte d'inscrire déjà ces enfants qui viennent d'ailleurs. Bien sûr, il y a aussi un travail de plaidoyer à faire avec le gouvernement et avec les autorités de la région, faire en sorte que ces écoles soient libérées et utilisées pour les enfants.
Oui, toujours dans le cadre de votre campagne, madame, il y a aussi une autre catégorie d'enfants, ce sont les enfants vivant avec handicap. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour essayer de mener cette campagne envers ces enfants et leur faire bénéficier de ces droits qu'est l'éducation pour tous?
Disons que les enfants en situation de handicap sont ciblés au même titre que tous les enfants habituellement marginalisés. Donc je pourrais citer les enfants pygmées, les enfants albinos, les enfants qui vivent dans des zones riveraines. Donc l'idée c'est de dire aux parents, tout enfant a droit à une éducation, donc emmenez tous vos enfants à l'école.
Bon, madame Erina Dia, nous vous remercions.
Dans un communiqué conjoint daté du 9 septembre, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, et Abdourahmane Diallo, représentant de l'UNESCO, réaffirment leur engagement à promouvoir l'alphabétisation en RDC. Un communiqué rédigé à l'occasion de la célébration, la veille de la journée internationale de l'alphabétisation, notamment à Kinshasa. Honoré Missengakalala revient sur le message de deux représentants de l'ONU et sur la célébration de la journée elle-même dans la capitale. Suivez.
C'est d'abord un message de félicitations et d'encouragement que Martin Kobler et Abdourahmane Diallo adressent aux autorités congolaises, à la fois pour les efforts faits et à poursuivre en vue de promouvoir l'alphabétisation qui est un facteur de développement durable. Ensuite, les deux représentants réaffirment l'engagement de leurs organisations respectives, la MONUSCO et l'UNESCO, de soutenir la RDC dans ses efforts de combattre l'analphabétisme. Quant à la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation ce mardi 8 septembre, le cadre choisi à Kinshasa, l'hôtel Vénus, affiche complet, avec notamment la présence de tous les ministres, provinciaux comme nationaux, concernés par l'éducation et la formation. Le représentant de l'UNESCO s'en réjouit et voit dans cette mobilisation la volonté du gouvernement dans le combat contre l'analphabétisme.
D'abord, nous saluons ici le ministère des Affaires sociale qui a organisé cette activité et félicitons aussi pour la mobilisation de l'ensemble des ministres en charge du sous-secteur. Parce que vous savez, au niveau de l'éducation, vous aviez quatre patrons là. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de l'enseignement technique et professionnel, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et les affaires sociales qui s'occupent de l'alphabétisation. Et c'était très important qu'ils soient tous ensemble parce qu'ils impactent tous et ils sont tous concernés par la question de l'alphabétisation.
La ministre du Genre, Famille et Enfants et ministre intérimaire des Affaires sociales, Madame Bijou Kat, explique ce qui est fait dans le cadre de cette alphabétisation.
Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, en collaboration avec les ministères sectoriels impliqués et en partenariat avec les ONG de la société civile, a mis en place les programmes suivants. Rattrapage scolaire du niveau primaire, alphabétisation traditionnelle, fonctionnelle, scolarisante, apprentissage de formation professionnelle, éducation permanente ou apprentissage tout au long de la vie. Toutes ces différentes offres concourent à une seconde chance au profit de toutes les personnes déscolarisées et celles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées dans le système éducatif formel.
Madame Halima Njelani est de ces personnes. Elle témoigne ici du bien de l'alphabétisation et invite toutes les femmes à faire comme elle. J'ai compris, malgré que je sois une maman, qu'il fallait que j'apprenne à lire et à écrire pour bien éduquer mes enfants et mes petits-enfants. Et pour le moment, effectivement, je sais lire et écrire. Même si vous me donnez un livre en français, je sais lire. Même en arabe, vous me donnez le Coran, je vais lire. Même le calcul, je sais faire. Un conseil aux autres mamans, qu'elles ne se découragent pas. Quel que soit votre âge, vous avez 60 ans, 70 ans, vous pouvez apprendre à lire et à écrire, parce que si vous ne savez ni lire ni écrire, vous êtes nul. Nous devons tout apprendre. C'est ainsi que j'appelle toutes les autres mamans qui sont encore analphabètes, quel que soit leur âge, 70 ans, 80 ans, de tout faire pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, même à la maison.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Comment réagit la MONUSCO sous le décret de la Cour constitutionnelle concernant le calendrier électoral en RDC? C'est la question posée par une consoeur de l'AFP mercredi dernier à la conférence des presse des Nations Unies. Vous suivrez également la réponse de Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO.
Bordé pour l'agence France Presse, la Cour constitutionnelle a annoncé hier qu'il n'y aurait pas d'élection avant celle des gouverneurs. Je voulais savoir si selon la MONUSCO, cette décision allait dans le sens du respect du calendrier, donc des élections y compris pour la présidentielle.
Il faut juste rappeler que la MONUSCO a un mandat très précis et très clair donné par la résolution 2211 du Conseil de sécurité qui nous demande d'accompagner au plan logistique et technique l'organisation des élections dans le pays. Et qui nous demande également d'accompagner au point donc des bons offices l'ensemble de la classe politique congolaise afin que les élections puissent se passer dans un climat apaisé. Alors pour ce qui est des dernières décisions prises par la Cour constitutionnelle, Nous voulons dire que cela relève vraiment de l'autorité et de la compétence. Ça relève de la souveraineté nationale. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement la communauté internationale est prête pour ce qui la concerne. En tout cas, accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine. Et nous allons, nous, en ce qui nous concerne au niveau de la MONUSCO, donc mobiliser la communauté internationale.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Mon nom est Claude Boussé-Nissambo. Je suis marié, j'ai deux enfants. Je travaille à la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, depuis l'année 2003. J'ai commencé comme journaliste, puis secrétaire de rédaction à Radio Okapi. Et depuis l'année 2007, je suis analyste d'information à GEMAC, une cellule d'études, de réflexion qu'on appelle Joint Mission Analysis Cell, GEMAC, qui est lié au bureau du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Congo. Ce service, où je ne suis qu'un maillon d'une chaîne, mon travail consiste à recueillir les informations des différentes sources internes et externes, les journaux, les rapports, les évaluations, et nous produisons aussi des documents d'évaluation de ce que sont les risques et les menaces réelles ou potentielles à la paix et à la sécurité du pays et de la mission. Ce sont des données que nous fournissons à l'intention de l'équipe de direction de la mission et des différents chefs de section. Avant la MONUSCO, j'ai travaillé essentiellement comme journaliste dans la presse écrite, dans le journal satirique Le Grognon. Puis je suis allé à la télévision, à Antenne A, où j'étais journaliste présentateur. Puis j'ai fait les émissions religieuses catholiques Le Jour du Seigneur, produites par la Conférence des évêques du Congo. J'ai travaillé aussi à Radio Elikia, où j'ai produit et présenté des émissions de la maison d'édition Verbum Bible. Dans le secteur de l'enseignement, j'ai été secrétaire académique à l'Institut supérieur des sciences religieuses qui est lié à la province ecclésiastique de Kinshasa, c'est-à-dire nous recevions des étudiants des diocèses du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa. J'ai eu aussi à assurer des enseignements dans les domaines des communications sociales à l'Institut supérieur Saint-Pierre Canisius de Kinshasa et au Grand Séminaire Jean 23, ici à Kinshasa. Pour mes temps libres, j'aime la lecture essentiellement, mais j'arrive aussi à jouer au football tous les mercredis et à faire la marche les week-ends dans la matinée. Mais les meilleurs moments de la vie sont ceux que je passe en famille. Mes préférences, je dois d'abord dire que en tant que philosophe de formation de l'Université catholique du Congo et j'ai eu aussi une formation en journalisme de l'IFASIC, je suis éclectique et libéral. J'aime tout ce qui est beau et bien fait. C'est ainsi que je suis très critique en toute matière, donc éclectique. Pour ce qui concerne la nourriture, l'habillement, j'ai des appréciations ouvertes. Mes projets d'avenir, je n'ai pas de projet précis. Je suis donc ouvert à plusieurs types de projets. Mais l'essentiel pour moi, c'est de rendre service. Servir autant que je peux, tant que je le peux. Aider les autres à se réaliser, à comprendre, à agir, à aller plus loin. Donc, je peux participer ou je participe à plusieurs types de projets au même moment, mais l'essentiel, c'est d'aider à une meilleure compréhension des choses. Voilà pour l'essentiel. Et merci de nous avoir suivis.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Deux journées internationales à retenir pour cette semaine qui commence. D'abord, le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie et le 16 septembre, c'est la journée de la protection de la couche d'ozone. Voilà, c'était un réel plaisir de vous présenter ce magazine coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Misenga Kalala était au reportage, une mise en onde assurée par Hippolyte Kapanga et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. À très bientôt.